Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en mars 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Et nous accueillons Jean-Manuel Mascorte.
Bonjour.
Et Cathy Suignard.
Bonjour.
Alors Jean-Manuel, on t'avait déjà reçu il y a quelques temps, mais là, nouveau projet dont on parle juste après, un petit fil rouge qui va nous permettre de vous connaître un petit peu plus tous les deux.
Donc je vous propose de répondre l'un après l'autre à ces petites questions. Si tu étais une mécanique de jeu, Cathy?
Si j'étais une mécanique de jeu, ouais, l'association d'idées, parce que ça fuse dans plein de domaines, et ouais, association d'idées.
Combinatoire.
Ouais, évidemment.
Bah oui. C'était dans le jeu combinatoire abstrait, ouais. Donc.
Si vous étiez un thème de jeu.
Plus dur là pour le jeu abstrait.
Oui. Ah, je suis bretonne, alors le fantastique toujours. Hein, c'est Brocéliande, les fées, les magiciens, toujours.
Plutôt engagé, réel, sans doute, proche de ce qu'on vit.
Et si vous étiez un élément de jeu?
Voilà.
Un pion d'Othello?
Biface.
Ouais, je serais un pion, un arbre, un végétal.
Et finalement, si vous étiez un jeu, quel jeu serait-il?
Alors, quel est le... Forcément, on va vers le dernier jeu qui nous a émus, qui nous a...
Le premier jeu, peut-être aussi. Qui
ah, t'as raison, c'est vrai que la boutique, elle n'existerait pas chez moi sans Tikal. C'est Tikal, vraiment, qui était le déclencheur.
Moi, le jeu de Go.
Et on retrouve le pion noir et blanc.
Oui, pas biface, mais... Non, c'est l'absolu.
Non, pas biface,
c'est le jeu absolu.
On va pouvoir démarrer cette interview. Eh bien, on va apprendre à se connaître encore un peu plus. Est-ce que vous voulez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, Cathy?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis ludicaire depuis 25 ans à Dinan, en Bretagne. Donc, j'ai ouvert la boutique en juillet de l'an 2000. Et au bout de quelques années, au départ, je me suis fait beaucoup aider par des collègues, des confrères. Puis est venue l'idée de, à mon tour, d'aider les confrères. Donc en 2016, avec deux collègues, j'ai co-créé le groupement des boutiques ludiques. Donc, c'est maintenant une belle association qui montait jusqu'à 200 boutiques en France. Puis au sein de cette association, on a fait pas mal de projets, mis en place le prix du groupement, et j'ai eu en parallèle le plaisir de faire partie aussi du jury deux fois à Boulogne-Billancourt, le créateur de jeux. Donc, très intéressant aussi dans la compréhension de ce que c'est que la création de jeux de société. J'ai pu faire aussi le flip à Parthenay dans le monde du jury. Pareil aussi, de voir vraiment la création à la base d'un jeu de société, c'est très 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 enrichissant. Et il y a un gros projet aussi qui a été vraiment plaisant à créer, ça a été le prix Lizzie Maggie lors du festival Rennes en jeu, donc on a co-créé, sur lequel j'ai pu être membre pendant 4 ans, où là on va parler de l'engagement politique, social, économique dans le monde du jeu.
Merci. Et toi, Jean-Manuel?
Non, moi, je suis ludicaire aussi à Chantilly avec le comptoir des jeux depuis 18 ans. Mon aventure ludique commence très tôt, hein, à l'adolescence. Hein. Je suis tombé dedans avec Jeux et Stratégie, le premier numéro, qui a accompagné ça. Et donc, moi, j'étais plutôt joueur combinatoire, hein, comme vous l'avez compris, puisque je faisais des tournois d'Othello, français, internationaux, tout ça. Je allais voir tous les tournois qui passaient, hein, que ce soit... Tournoi de ballonne, de bridge. J'ai testé, je crois, tous les clubs pratiquement de jeux à Paris. Dès qu'il y en avait un, on allait, moi ou avec des copains, on allait voir, on allait prendre. Ouais, donc j'ai fait mes premières armes là-dessus. Et après, en effet, avec la création du comptoir des jeux, je suis rentré dans le monde plutôt professionnel. Et voilà, j'ai continué. Et il y a eu la démarche de créer la collection de livres Territoire de jeux, en effet, sur la pratique du jeu à travers le monde et l'histoire des jeux.
Et si vous voulez en apprendre plus sur ces livres, je vous renvoie à l'interview donc pratiquée il y a quelques années maintenant, qui était centrée sur ce sujet.
Merci.
Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un magazine. Alors, quel est ce magazine qui n'est pas encore sorti? Quel est son nom et son contenu?
Alors, ce magazine va s'appeler Ludographique. Le premier numéro est prévu pour cet été. Ça va être une revue culturelle, papier, sur le jeu, sans avis, sans critique de jeu. Donc, on va avoir du rédactionnel, fait par pas mal de contributeurs et contributrices qui vont nous apporter leur expertise, leur vision, leurs propos, qui aiment écrire. Et voilà, ça sera une revue sur abonnement. Seulement, on ne sera pas en kiosque.
Elle sera trimestrielle et dans l'idée avec chaque trimestre, un dossier différent. Donc, chaque revue sera indépendante l'une de l'autre. Elle amènera des curieux, des professionnels vers un thème.
Vous prévoyez une grosse revue? Vous avez un nombre de pages? Vous visez quantité d'articles?
Alors, on vise en gros 60-70 pages. Pour l'instant, on est vraiment dans la construction du premier numéro. On se dit que les numéros seront peut-être différenciés en termes de nombre de pages. On se donne une certaine liberté en nombre d'articles, si. Pour l'instant, on tourne sur une douzaine d'articles pour le premier numéro, avec une dizaine de contributeurs différents. Donc, on sait qu'en fonction des thématiques qu'on abordera, il y aura peut-être plus ou moins de contributeurs.
Donc vous êtes tous les deux directeurs de publication. Comment vous est venue donc cette idée, cette envie de créer un magazine, sachant qu'il y en a déjà quelques-uns qui existent, bon, plutôt orientés tests de jeux, actualités. Mais on sait que la presse n'est pas toujours dans la meilleure des formes en ce moment. Comment est arrivé donc ce projet?
De mon côté, en tant que ludicaire depuis 25 ans, je pense qu'il y a besoin de respirer, de s'extraire un petit peu de ce quotidien fou qu'on vit, de ces pléthores de jeux qui sortent. Et les fonctions, ce que j'ai pu vivre au cours des 25 ans de métier, à savoir monter le groupement des boutiques ludiques, puis ensuite j'ai été plusieurs fois membre de différents jurys. Ainsi qu'au groupement, on a réfléchi un petit peu à la mise en avant du milieu du jeu, comment on met en avant les auteurs, autrices, illustrateurs. Voilà, tout ça amène, puis surtout dernièrement, le prix Lizzie Magui, dont j'étais cofondatrice et j'ai été membre pendant 4 ans, amène à une réflexion sur prendre un peu de recul sur ce qu'est le monde du jeu, le regarder différemment. Et pour le regarder différemment, c'est se poser. Donc se poser, prendre le temps, donc forcément le papier. Et forcément l'apport de Jean-Manuel qui déjà écrivait et écrit toujours des livres a été forcément une forte contribution dans l'idée de la création de cette revue.
C'est toi qui as proposé à Jean-Manuel?
Non, je crois que c'est venu naturellement tous les deux.
L'idée était dans l'air?
Sans doute, ouais. Oui.
Ouais, clairement. On était mûrs tous les deux sans doute pour pouvoir justement... aborder ce projet qui était presque naturel en fait dans notre parcours.
Et donc on a pu avoir le programme du premier numéro et c'était un petit peu mon interrogation avant d'avoir comme ça le détail, c'est que c'est pas forcément vous qui allez écrire dans le magazine.
Non, c'est pas l'idée. Vraiment, on écrira quand on devra écrire, quand on trouvera peut-être pas personne qui pourra traiter le sujet, qui aura les données nécessaires pour les traiter. Donc ça, on le fera. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des contributeurs et des contributrices autres qu'on voit pas forcément tout le temps non plus, même dans nos médias respectifs, dans les médias du jeu. Mais voilà, qu'on s'extrait un petit peu de, pas notre entre-soi, mais des relations qu'on peut avoir privilégiées, qu'on a depuis des années entre nous, et les mettre en avant. Donc c'est vraiment ce choix.
C'est vous qui allez chercher ces personnes que vous connaissez sur un sujet donné, ou vous faites un appel à candidature sur un thème?
Sur le premier thème, on est allé chercher les personnes. Mais on voit au fur et à mesure des discussions qu'on peut avoir ici et là, il y a une vraie envie. On voit ça pétille dans les yeux de beaucoup de personnes. Donc, on sent l'envie de participer. On sent l'envie de. Bon, il y a toujours ceux qui ont peur d'écrire, la peur de la page blanche. Ça, c'est quand même une grande difficulté dans la presse. Mais oui, sans doute qu'on aura, je pense, des étincelles qui vont venir de d'autres personnes. Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes allés chercher. Les contributeurs et contributrices de ce premier numéro.
Et vous avez déjà des pistes pour le deuxième ou c'est...
Et pour le troisième et pour le quatrième.
Ah,
pour le cinquième. On est obligé d'être... C'est notre première problématique, hein, parce que le premier numéro, on l'a à peu près bouclé dans sa, dans son fond, en tout cas, même si on doit travailler encore la forme. Mais c'est pas le premier qui est le plus complexe, c'est le deuxième, troisième, quatrième, parce qu'on rentre dans un rythme trimestriel. Il va falloir pouvoir quand même assurer aussi cette production, cette rédaction qu'on veut toujours de qualité. Donc on travaille déjà le deuxième numéro, on commence à réfléchir au troisième et au quatrième. Voilà, on aura besoin d'avoir toujours une avance.
Vous nous faites un petit teasing sur les thèmes qui vont être abordés prochainement?
Oui.
Donc le premier numéro, ce sera donc les lieux de jeu. Et le deuxième, qui est un grand et vaste sujet, sera l'économie du jeu. Donc c'est de, là on passe du temps en effet sur Cannes pour aller récolter des informations auprès de tous nos partenaires et on est surpris et non surpris du peu de données en fait dont chacun dispose et ce qui est intéressant c'est qu'ils se disent mais c'est chouette en fait ça va nous inciter à réfléchir donc mettre tout ça sur papier, mettre tout ça dans une revue en fait, synthétiser toutes ces informations, ben finalement ça leur donne un but pour se dire mais oui on l'a jamais fait et ben on va aller vous chercher les données. Donc il y a une vraie envie de partage, une vraie envie de comprendre ce qu'est le milieu économique du jeu de société. Donc on est plutôt ravis des retours qu'on a et de l'envie de partage de tous les partenaires.
C'est vrai qu'on est dans un secteur où on a très peu de chiffres. Vraiment, quand on compare aux jeux vidéo, à la BD, aux livres, etc., où les choses sont connues, calibrées, catégorisées, nous, ça reste beaucoup parfois du doigt mouillé. Hein.
Alors, je suis surprise parce que tu tiens une boutique de jeux.
Oui.
Donc, je me disais que tu avais déjà accès à certains chiffres qui ne sont pas connus du public. Du coup, je suis surprise de cette information.
C'est pas ce niveau de détail qui est complexe à avoir, puisque professionnellement, on l'a, en effet, mais c'est un niveau un peu plus macro. Ne serait-ce que, tout simplement, tu parles de boutiques. Combien y a-t-il de boutiques en France?
C'est pas
tu
connu.
Poses la question à 10 acteurs, tu as à peu près 8 réponses différentes. Donc, c'est très difficile. Hein. Et ça, ça paraît être un élément basique. Mais quand tu le déclines surtout sur les auteurs, autrices, sur les
illustrateurs, une ludothèque, ils ne savent pas se compter non plus. Une ludothèque, une médiathèque, à quel moment on définit que c'est une ludothèque dans une médiathèque?
Voilà. Alors qu'on pourrait imaginer que des réseaux comme le GBL ou autre aient plus d'informations là-dessus, mais ce n'est pas le cas.
Au sein d'un groupement, on est 200 boutiques, mais ça c'est pas révélateur de ce qu'est le maillage territorial des boutiques en fait.
Parce qu'il y a des qui veut, donc au final vous n'avez pas l'intégralité de
pas
boutique existante.
Donc beaucoup de travail sur ce prochain numéro.
C'est celui qui nous qui nous anime.
Surtout qu'on va aller au-delà de notre secteur aussi professionnel. Hein. On va évidemment aborder le jeu aussi plus traditionnel dans les grandes fédérations. Hein. Il y a un tournoi là aujourd'hui, cette semaine, au Salon des Ambassadeurs à Cannes avec des centaines de joueurs d'échecs, par exemple. Donc voilà, ça c'est une économie aussi du jeu. On n'en parle pas trop, nous, mais voilà, elle existe. Mais il faut aussi l'étudier.
On a pu passer justement à côté des salons pro et voir. Alors c'était le matin, il n'y avait pas encore les tournois, mais ces tablés qui s'enchaînent et sur chaque table il y a 4 jeux d'échecs côte à côte. Et effectivement, on se rend pas compte en tant qu'amateur de jeux de société qu'il y a aussi encore tout ce pan de jeux traditionnels qui vit et qui vit grandement.
Et qui a un maillage parfois plus important que le nôtre, simplement. Oui. Hein. 100 000 licenciés aux échecs et aux bridges, enfin, 1 000 clubs, des budgets fédéraux qui sont quand même intéressants, des subventions publiques et une visibilité énorme. Hein.
Oui.
Il suffit de comparer le nombre de joueurs sur BGA et sur chess.com. On peut dire, super, on a 10 millions de joueurs sur BGA mondialement, chess.com, ils sont à 230 millions.
Bon, parlons un peu matériellement. Comment sera distribué Ludographique et comment on peut le trouver, nous, lecteurs assidus de presse?
Alors, on lance une petite campagne d'abonnement en ce moment sur Ulule. L'idée, ça sera une revue qui ne sera pas disponible en kiosque. Ce sera vraiment par abonnement, achat au numéro sur le site. On espère aussi des abonnements de ludothèques, professionnels du monde du jeu, de faire des moments sur les festivals de jeux également. Mais l'idée, c'est d'essayer de s'extérioriser, de vraiment chercher l'abonnement, pas forcément sur des professionnels du monde du jeu, mais des gens qui ont envie de connaître ce que c'est le monde du jeu. Et donc, voilà, de pas se carcanter à des lieux précis, donc chercher l'abonnement.
D'accord. Et vous n'imaginez pas une distribution en boutique ludique ou autre, c'est pas dans l'idée?
Pourquoi pas, si mes collègues sont demandeurs. On n'a pas de modèle établi au niveau de la distribution pour le moment. On attendait de voir un petit peu le retour de nos collègues ludicaires aussi. Un milieu très économique et marchand, évidemment, ludicaire. Donc, on se dit quelle est l'attente que peut avoir un ludicaire sur quelque chose, sur une revue un peu plus engagée, un peu plus culturelle. Mais voilà, on voit que ça titille. Donc, on se dit, pourquoi pas, en effet, positionner en boutique. Ouais. On a des éditeurs qui nous ont proposé aussi une distribution. Donc, on a vraiment un accueil très, très chaleureux de tous les partenaires à qui on a l'habitude de travailler en tant que ludicaire. Et on se dit, un vrai plaisir de pouvoir être aidé, en tout cas de la part de beaucoup de personnes.
Des experts qui parlent de notre passion commune, c'est forcément welcome. Tu parlais donc d'une campagne Ulule, elle a démarré, elle se termine quand?
Oh, elle est encore là pour une trentaine de jours, hein. Elle a démarré depuis une petite semaine, donc c'est vraiment...
Est-ce que vous avez une date que nos auditeurs puissent sauter dessus s'ils sont intéressés?
Je crois avoir regardé, ça doit être sur fin mars, début avril, la campagne.
Oui.
Tout le mois de mars, oui.
Ok. Donc sur Ulule, et vous disiez possibilité d'acheter au numéro, donc vous avez un site?
Oui, il y a un site qui vient d'être construit, hein, ludographique.com. Okay. On peut acheter au numéro, évidemment on pourra acheter les numéros qui nous intéressent pour ceux qui n'ont pas envie de s'abonner, mais on pourra bien sûr s'abonner.
Mmh. Parce que là, dans la campagne, on peut prendre juste le premier numéro pour découvrir, ou un système d'abonnement pour avoir plusieurs numéros jusqu'à un an, je crois, l'abonnement le plus fort.
C'est ça.
Et donc, effectivement, si vous avez pris le premier numéro par la campagne, vous pourrez le retrouver derrière les suivants, si vous êtes conquis par le projet, sur le site directement.
Tout à fait.
Vous parliez donc de plusieurs numéros en presse écrite. Est-ce que vous avez imaginé une forme numérique?
Alors, pas pour le moment, parce que dans l'idée, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'écrit, on va l'accompagner de photos. On avait l'envie que, voilà, on garde, on dit jeu de société, donc de mettre l'humain au cœur aussi de la revue. Donc, les articles seront accompagnés de nombreuses photographies. Là, il y a le plaisir du papier. Donc, le mettre en ligne, c'est pas notre vocation première. Bien sûr, il y aura des articles qu'on pourra retrouver en ligne plus tard. Mais il y a vraiment ce plaisir de la photo qu'on va chercher, qu'on va accompagner les articles de belles photos. Donc, ça, c'est pas pour rien qu'on a cherché le papier.
Okay. On est très intéressé par l'objet aussi final, hein, qu'on a en main, que ce soit un objet agréable à lire, qui a une certaine tenue, un poids, voilà, enfin, c'est aussi ça qui compte beaucoup.
C'est un objet qu'on va garder, c'est ça l'idée, de garder sur un temps long, vraiment de s'extraire de ce temps du monde du jeu moderne qui est beaucoup trop court, de pouvoir garder sa revue. Elle sera dans nos bibliothèques ou dans nos ludothèques, mais quelque chose, un objet qu'on gardera sur un temps long.
Vous parliez de nombreux contributeurs pour écrire les différents articles sur les thèmes donnés. Ce sont des pigistes, ce sont des gens rémunérés, ce sont des bénévoles?
Non, on a choisi de pas de prendre de modèle économique de bénévoles. Ils vont être rémunérés à la pige.
Okay.
Donc, oui, bien sûr. D'accord. Non, là-dessus, pas de...
Me permet de poser la question.
Bien sûr, même si aucun d'entre eux nous a posé la question quand on leur a présenté le projet.
Très motivés de parler de leur passion, j'imagine.
Bien sûr.
Un petit point sur le Ulule, hein, puisque donc on a dit qu'il était en cours, mais il est surtout abouti. Donc les gens sont sûrs de recevoir leur revue dans les mois qui viennent. Hein. C'est toujours bon à préciser. Avec le monde du financement participatif, des fois il y a toujours un petit peu cette petite crainte. Mais déjà félicitations à vous, hein, puisque ça a intéressé effectivement beaucoup de monde. Nous d'ailleurs aussi, hein, pas que pour l'interview.
L'idée c'était pas de faire un financement participatif. La revue économique techniquement, elle est gérée. C'était de lancer une campagne de communication pour inciter les gens à s'abonner, pour pouvoir en parler. Là, on a en effet la campagne qui est pledgée, comme on dit. Mais on cherche de l'abonnement, en fait. On cherche à visibiliser la revue. Le modèle économique, il est établi.
En termes de quantité, vous allez produire combien de revues au départ, vous le savez ?
On est sur un modèle de 1 millier pour le premier numéro.
Okay. Voilà. Et sans doute quadrupler le deuxième numéro sur l'économie.
Peut-être effectivement que le sujet sera plus porteur ou en tout cas amènera plus d'intérêt. C'est même les professionnels du monde du jeu, comme tu disais, qui sont parfois désespérément à la recherche d'informations. Et c'est toujours un petit peu étonnant de se dire que ce travail journalistique n'a pas été déjà fait et que ce n'est pas déjà compilé. Alors, je dis journalistique, mais ça pourrait être fait par des groupements, hein, que ce soit l'UEJ ou la SAGE, qui auraient pu déjà compiler. Alors, ils ont peut-être pour leur secteur, mais peut-être qu'aucun n'a été de se rapprocher d'autres données.
Il y a eu une tentative qui a été faite au sein du groupement interprofessionnel du jeu de société, justement, qui regroupe la SAGE, l'UEJ, le GBL, le RCL, les ruches, etc. Où on a essayé de faire une infographie sur deux pages qui était aussi à destination de nos pouvoirs publics pour essayer de, voilà, essayer de les sensibiliser sur le fait que le jeu est un objet culturel, est un objet de création, est un objet aussi économique. Donc, voilà. C'était aussi la destination. Mais ça reste très macro. On a envie d'aller beaucoup plus loin.
C'est bien. En termes de communication, alors autant nous, on connaît les modes de communication sur les jeux de société, sur de la presse, comment vous atteignez votre cible ? Est-ce que vous avez fait des contacts dans les ludothèques, même si elles ne sont pas toutes recensées ? Comment vous faites ?
Depuis 25 ans qu'on est dans le milieu du jeu, c'est vrai qu'on a un petit carnet d'adresses qui est assez bien établi. Étant, Jean-Manuel et moi aussi membres du groupement interprofessionnel du jeu de société, forcément, on a facilement accès à tous nos partenaires. Donc, le carnet d'adresses des ludothèques, c'est des choses et autres sur lesquelles on peut compter facilement. Et après, l'envie de s'extérioriser aussi, d'aller parler du jeu vraiment hors du milieu professionnel. Donc ça va falloir qu'on réfléchisse à une communication externe. Donc là, les médias plus généralistes, on allait leur parler de la revue du jeu sur des quotidiens, la presse locale de nos deux côtés, radio.
Ça sera dans un deuxième temps, sans doute. Le premier temps, en effet, c'est Dicati. Hein, c'est qu'on va utiliser nos réseaux professionnels et nos contacts déjà préétablis pour faire déjà ce premier pas.
Et moi, je me posais la question vis-à-vis des autres magazines ludiques, tels que Plateau Haute, donc qui n'ont effectivement pas la même ligne directrice, comme vous l'avez souligné, hein, qui sont plus dans l'actualité, plus dans le jeu ciblé. Hein. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux prendre un petit peu le pouls de comment faire fonctionner un magazine ludique et justement pour peut-être un peu les rassurer, le fait que vous ne serez pas en concurrence.
Il n'y a aucunement eu besoin de les rassurer. On n'est pas du tout sur le même sur la même ligne de conduite, donc bien sûr, on a discuté depuis quelques mois, quelques années même avec Plateau, on a déjà partagé des informations, bien sûr. Donc il y a aucun regard inquiet de la part des autres magazines. On a regardé CNET aussi, forcément en Angleterre. Très joli magazine. Bon, on s'est interrogé sur quels encarts publicitaires on allait mettre, les tarifs. C'est des petites choses, évidemment, qu'on est allé chercher comme information auprès de nos collègues.
Donc, il y aura des encarts publicitaires au sein de Ludographique aussi ?
Alors, très peu. En fait, hein, quand je vous l'ai dit, entre 60 et 70 pages, il n'y aura que 4 pages qui sont dédiées. On ne veut pas du tout, ce sera un petit support ou un accompagnement ou un soutien de certains professionnels du secteur, mais pas plus.
Et ce sera justement des publicités un peu orientées dans la ligne de directrice de Ludographique ou plutôt ouvert ?
Non, il n'y aura sans doute pas tout. C'est-à-dire qu'on aura quand même un choix, une décision. On ne peut pas nous proposer n'importe quoi. Il faut quand même que ça soit, que ça corresponde aussi à nos valeurs, à ce qu'on a envie de...
Surtout qu'on a compris que vous apportez grande importance à l'image. Donc j'imagine que les publicités seront aussi travaillées de manière un peu graphique et pour ne pas dénaturer le produit dans sa qualité.
Si on peut, après, il faut accepter aussi la publicité et de la publicité. Il n'y a pas de... C'est pas sale. On prendra la publicité avec quelques réserves qu'on pourra mettre en tant que directeur et directrice de publication.
Mais elle est d'autant plus pertinente si elle est bien intégrée dans son support.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et vous avez déjà mis en place ces partenariats ?
Non, parce que comme on disait, que le modèle économique, il est là, il est sain pour le moment. Donc, c'est pas encore une... Puis on se dit que ces encarts publicitaires, on devrait les trouver assez facilement. Donc, ça n'a pas été notre priorité. Là, notre priorité, elle est sur, maintenant que les articles sont faits, c'est les photos, en fait. Et ça, c'est un long travail sur lequel c'est un nouveau métier pour nous. Donc, adhérer à l'agence France Presse, c'est d'aller chercher toutes ces photos un petit peu ici et là, comment on rémunère les photographes. Ça, c'est un métier, par contre, qui nous est un petit peu plus inconnu. Donc, ça, c'est un long travail. Et puis de choix entre nous aussi, d'être d'accord sur telle et telle photo. Voilà. Ça peut être des pierres d'achoppement aussi, parfois.
Vous avez embauché donc un ou des photographes en prestation pour le magazine ?
Ça pourrait être possible, pour l'instant non. Enfin, on a Mélio qui travaille avec nous, là, qui tourne un petit peu autour, là, qui fait des photos, donc il travaille avec nous, là-dessus il n'y a pas de souci. On travaille déjà pour le comptoir des jeux notamment, donc c'est assez simple. Non, ce que dit Cathy, c'est le problème des droits photo. En effet, quand on va publier une photo, il y a des auteurs, photographie, il faut les rémunérer soit par des agences de presse, comme l'AFP en effet, des tarifs, soit quand c'est individuel, quand on tombe sur une photo d'un photographe mondial, dernièrement c'était un Malaisien, on a discuté avec lui sur quelles étaient les conditions pour pouvoir utiliser sa photo, et voilà, il y a eu une transaction, donc c'est une rémunération, comme les pigistes, comme les photographes, voilà. On va essayer de faire les choses comme elles se font.
Donc pour l'instant vous restez sur des photos existantes, vous arrivez à vous contenter d'images déjà prises que vous allez chercher dans des banques de données de photos.
Pour le numéro 1, oui. Sur les lieux de jeu, il y a vraiment pas mal de photos qu'on peut trouver un petit peu sur toutes ces agences. Selon les numéros, en effet, il faudra évidemment faire d'autres photos. Melio a fait pas mal de photos, en effet, sur les tournois d'échecs aussi pour illustrer ce que sont les fédérations aussi. Parce que ces tournois sont assez impressionnants. On voit ces lignées de tables de jeux d'échecs et autres jeux combinatoires. Ce sera selon les numéros, en effet, soit des photos que nous allons faire, soit des photos la plupart du temps, des photos qu'on va acheter.
Je n'avais pas du tout pensé aux photos, en effet.
On est dans un milieu qui travaille beaucoup par l'illustration, en fait.
C'est vrai.
Il y a quelques photos de tables de jeu, de boîtes de jeu, mais c'est vrai que le monde du jeu, il reste illustré, peu photographié.
C'est d'ailleurs une de vos lignes mises en avant sur le petit flyer de communication où le magazine sera tourné beaucoup sur l'image, en plus du texte, logiquement le texte, mais effectivement on mentionne moins les images que les auteurs de chaque texte.
On l'a bien sous-titré « Regard sur le jeu », donc c'est un regard.
Oui, puis rien que dans le titre du magazine, c'est ludo et graphique. Donc...
Super, on ne s'est pas trompé en choisissant ce nom.
Vous vouliez lister un peu plus les thèmes ou...
Teaser un petit peu le premier.
Oui, sur le premier, sur les lieux de jeu, là, en effet, il y a les lieux très classiques, comme disait Cathy, aussi, café-jeu, les lieux de tech et tout. On va s'intéresser aussi aux jeux virtuels, sur les tables virtuelles, c'est un lieu. On va s'intéresser sur comment les musées aussi travaillent l'interaction ludique avec leurs visiteurs. On va travailler aussi un très bel article de quelqu'un qui s'appelle Michel Boutin, qui est un historien du jeu, sur les lieux de guerre, les jeux qui ont été faits pour les jeux dans les tranchées, par exemple, sur la Première Guerre mondiale. Donc, il y a vraiment une... Vous voyez comment on essaye un petit peu d'aller chercher des jeux très classiques, parce qu'ils le sont aujourd'hui, mais d'ouvrir un peu notre spectre, oui. Voilà, de vision.
intrigant et intéressant à la fois.
Ouais. Ouais. Ça fait plaisir de voir votre réaction.
Oui. Ah ouais, mais on se dit, on pense
c'est
vraiment.
Les petits jeux qui pétillent. Ça.
Mais ouais, c'est génial cette ouverture sur le monde, sur ce qui existe. On pense pas à tout, en effet, et vous nous aidez à élargir ce spectre. Merci.
Ouais, intriguant. Parce qu'on joue partout aussi, mais on n'imagine pas qu'on peut jouer encore plus loin. Et effectivement, partout, quoi. C'est...
Et dans les tranchées.
Ah ouais.
Et ça continue. Hein. Je vois un contact au ministère des Armées. Il y a des dans leur package, ils ont des jeux en fait. Il y a des ludothèques dans les sous-marins. Il y a, enfin, voilà, il y a le jeu est présent vraiment partout.
Pour notre plus grand plaisir. c'est formidable.
Vaut mieux qu'ils jouent. C'est que c'est bon signe.
Il y a beaucoup de temps d'attente pour les militaires.
Oui, effectivement.
Donc il faut les combler par la lecture, par le jeu.
On va prendre notre abonnement tout de suite. C'était prévu. On n'avait pas eu le temps là avec Anne. Mais... Et vous devez faire des rencontres incroyables.
Oui, c'est ultra enrichissant. C'est vraiment un nouveau monde. Enfin, on pense en effet dans le monde du jeu ici qu'on voit tout, mais Cannes est loin d'être en effet le. C'est un micro en fait, un micro. Ouais, merci. Par rapport à tous les lieux de jeu, tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, j'ai découvert en effet grâce à Jean-Manuel en effet tous les jeux combinatoires. J'avais aucune idée de toutes ces fédérations qui pouvaient exister. Et après, quand on rencontre quelquun comme Thibaut Quintin, ceci qui va vous dire. Tous les voyages qu'il a pu faire, les gens qu'il a vu jouer partout dans le monde. Il y a des choses magnifiques à raconter.
C'est la réflexion que je me fais à peu près à chaque interview. C'est cette richesse de connaissances de chacun. Et vous rouvrez encore une porte de plus. Enfin, c'est magique.
Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, au moment de cette diffusion, il y aura un Ulule encore en cours. On mettra le lien dans le billet, mais dépêchez-vous, c'est jusqu'à fin mars. Et si vous entendez cette interview un peu trop tard, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ludographique.com.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.